nouveau bonsoir, Daniel Lebrun.
Bonsoir.
C'est un plaisir de vous retrouver pour la suite du programme de votre Nuit rêvée sur France Culture. Dans la deuxième partie de la nuit, nous entendrons Raymond Queneau et ses chansons d'écrivain, Serge Reggiani et Michel Bouquet dire Aragon, Bernard Fresson nous parler de l'auteur de Tropique du Capricorne et enfin Laurent Terzieff. Mais avant de poursuivre, nous allons entendre la voix de Delphine Seyrig au micro de Jacques Chancel pour Radioscopie en 1971.
Delphine Seyrig, vous avez toujours eu cette voix ?
Je ne sais pas du tout. C'est une question qu'on me pose toujours. Je n'en sais rien. Je sais que tous les gens que je connais qui sont bilingues, je suis bilingue, ont des voix un peu particulières. Et je pense que ça vient probablement de ça. J'ai vécu beaucoup à l'étranger. J'ai vécu à peu près autant à l'étranger qu'en France. Et je pense que quand on apprend d'autres langues, le fait est que les Françaises ont des voix beaucoup plus aiguës que les Américaines. Que les Américaines ont des voix plus graves. Moi, j'ai appris l'anglais en Amérique. Les Anglaises, elles, ont une voix aussi assez aiguë. C'est très curieux. Ça, c'est des choses que je crois beaucoup plus générales. Je suis le résultat d'un mélange de choses, quoi.
Mais vous savez la puissance de charme de cette voix.
On me le dit. Il y a des gens que ça agace beaucoup, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est toujours la puissance du charme ou la puissance de l'agacement, mais oui.
Daniel Lebrun, quel effet vous fait cette voix?
J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup Delphine Seyrig. Je ne pense pas que ce soit à cause de son bilinguisme, je ne pense pas.
Peut-être cette manière quand même très appuyée d'articuler les mots.
Je ne sais pas. C'est mystérieux la voix, vous savez. C'est comme ça, on vous reconnaît. Tout de suite, on met un visage sur vous. Mais c'est pas, je pense pas que Pieplu ou Lonsdale, si Lonsdale peut-être, Bouquet ou Fresson étaient bilingues.
Non.
Vous voyez. Non, je pense pas, mais elle, c'est vrai que c'est surtout une magnifique comédienne, poétique, elle se sert très bien de son support.
Vous l'avez connue ?
Je l'ai connue un tout petit peu, oui, mais j'ai hélas pas joué avec elle.
Elle a été l'élève de Tania Balachova.
Voilà, oui, oui.
Que vous avez connu.
Oui, oui.
Puisqu'elle vous a mis en scène.
Oui, dans Huis clos, oui.
Vous avez choisi d'ouvrir la deuxième partie de votre Nuit rêvée, Daniel Lebrun, avec Raymond Queneau, que nous entendrons dans le deuxième volet de la série Chansons d'écrivain de Jean Chouquet en 1953. Raymond Queneau, dont vous avez joué l'un des textes les plus célèbres, Exercice de style.
Voilà, Exercice, c'était justement la mise en scène de Jacques Seller, qui l'a rendu célèbre au théâtre. Et après, on a fait plein de choses ensemble. C'est une adaptation où personne n'y croyait. Comme on dit, on a fait garage au théâtre Montparnasse. C'est-à-dire qu'on a choisi nos costumes de peintre en bâtiment. C'était pas cher du tout. Tous les petits accessoires, chapeaux, parapluies, c'était dans le grenier de maman. Et puis, on a tout fabriqué nous-mêmes. La bande son avec en douce à Radio France, un dimanche matin, pour pas que ce soit trop cher. Un copain nous avait fait ça en douce, vraiment en douce. Ça, faut pas le dire, mais bon, c'est fait. Et y a longtemps, hein. Il y a prescription.
Pas si longtemps que ça.
On s'est dit, nous, ça nous fait rire. Il y avait Jacques Boudet, Jacques Seller et moi. On avait de très bonnes chansons. Et on y va, voilà. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Et ça a été un tel succès qu'on a été surpris nous-mêmes. Le directeur du théâtre Montparnasse nous a dit, il faut passer dans la grande salle. Il n'y a rien à faire. On a tellement de gens qui sont à la porte que c'est pas possible. Alors on a étoffé notre spectacle avec d'autres chansons. Et on est parti pour un an, plus même, et les tournées. Et puis quand on en avait marre, on arrêtait. Aux grandes dames des directeurs de théâtre. Et puis, quand ils nous disaient « Tiens, au mois d'août, il y a un trou, est-ce que vous pouvez venir ?» À chaque fois, on faisait un malheur. Le théâtre était sûr d'être plein. C'était un spectacle qu'on a joué 1000 fois, mais en 10 ans, quand même. On n'allait pas devenir fou, quand même. Sur 10 ans, et on a fait plein d'autres choses, entre, ensemble ou pas ensemble.
Et qui vous a emmené jusqu'en Polynésie?
Voilà, on a, entre le pôle Nord, enfin... la ville d'Alvaralto, c'est déjà où Vache coule, voilà. C'est à 100 km du cercle polaire quand même.
Comment la pièce était-elle accueillie?
Oh bah, ce sont des maisons de la culture française. Alors c'est à chaque fois, c'est comme quand on va dans les pays de l'Est avec Planchon, tout le monde parle français. Alors c'est formidable. Non, ça a toujours été très très bien accueilli. Jusqu'à Tahiti, en effet.
Après la guerre, Queneau fréquente Saint-Germain-des-Prés et en 1949, il reçoit une lettre de Juliette Gréco lui apprenant que sur le conseil de Sartre, Cosma a mis en musique son poème « Si tu t'imagines » et qu'elle a l'intention de le chanter au bœuf sur le toit. Queneau et la chanson, c'est donc le thème de cette archive, le plaisir de la langue que l'on entend vraiment tout au long de cette émission.
Magnifique archive, magnifique. Il y a les frères Jacques, il y a ça, c'est magnifique. Il faut tout écouter, là, c'est formidable.
Il a été chanté par Cora Vauquer, Agnès Capri, oui. Mouloudji, Micheline Dax.
Tout le monde. Il avait de très très bons musiciens, Cosma. Il y avait de très très bons musiciens. Et les chansons sont encore très connues.
Il a même écrit des paroles pour des comédies musicales. Il dit, comme certains provinciaux, être tombé amoureux de Paris et n'avoir jamais pu la quitter. N'est-ce pas un peu votre cas ?
Vous savez, moi j'étais dans une petite ville tristounette du Tarn et mon père qui était parisien pur jus avec un peu l'accent de Gabin me disait « Ah, quand tu verras Paname !» Et quand j'ai vu Paname, c'était fin août, j'avais 8 ans. C'était un choc magnifique, il faisait très beau, c'était un éblouissement. Et quand je suis un mois en dehors de Paris, ça me manque.
Daniel Lebrun, nous entendrons dans la suite de votre nuit rêvée Serge Reggiani et Michel Bouquet dire Aragon dans Photogramme, une émission consacrée au poète, par Hubert Juin en 1962. Vous avez choisi Serge Reggiani, l'acteur, plutôt que le chanteur.
Non, j'aime beaucoup, beaucoup le chanteur. Je l'ai vu souvent en scène. Il est extraordinaire. Il a une autorité en plus. Il n'était pas très grand et quand il voulait chanter une chanson, il fallait que les applaudissements cessent. Il n'avait qu'un geste à faire et tout le monde était paralysé sur son siège et on écoutait. C'était formidable. Je l'ai vu aussi dans Les Séquestrés, mais c'est un comédien que j'adore depuis que je l'ai vu au cinéma dans Casque d'or. J'ai appelé mon fils Serge à cause de
Serge Reggiani.
À cause de ça, à cause de Eisenstein et Prokofiev. Trois Serges magnifiques. Donc mon fils s'est appelé Serge.
Et puis dans cette archive, nous retrouvons Michel Bouquet, qui a été partenaire de Suzanne Flon, d'ailleurs. Dans les pièces d'Anouilh.
On ne va pas raconter Michel Bouquet, c'est un tel acteur magnifique.
Il a été votre partenaire dans Le Malade imaginaire.
Oui. Une très belle émission de Santelli.
Et il y avait aussi d'ailleurs dans cette émission Michael Lonsdal, une voix que vous auriez également voulu entendre dans cette nuit, mais nous n'aurons pas le temps d'entendre tout le monde.
Encore un acteur avec qui j'ai joué, que j'adore.
Et puis donc Aragon, que vous avez... croisé.
Oui, j'ai croisé chez Dominique Arban qui avait fait l'adaptation des frères Karamazov et en même temps, la même année, je crois, un livre sur Aragon, très très connu, un livre sur lui, magnifique. Donc, c'était une soirée chez elle où il était très fringant, il était veuf récemment et je pense que... Il aimait beaucoup rajeunir avec les acteurs de la troupe qui étaient François Martouret et José Maria Flotat. Si je me souviens qu'il avait dit non, j'ai pas besoin de m'asseoir, je vais m'asseoir par terre avec eux. C'était très, très élégant pour un vieux monsieur, quoi. On avait bien ri, d'ailleurs.
Vous parliez à l'instant des frères Karamazov et c'est avec Bernard Fresson, pour pages arrachées au roman de Henri Miller, que se prolonge votre nuit rêvée, Daniel Lebrun. En 1991, Bernard Fresson faisait partager quelques souvenirs de jeunesse, du temps où il découvrait l'œuvre de Miller et dont il lisait quelques pages de Sextus. Cette émission restitue fidèlement, m'avez-vous dit, le Bernard Fresson que vous avez connu.
Oui, ça c'est magnifique parce que il a une façon très particulière à lui d'être nature, de montrer sa nature. Elle est comme ça. Et c'était quelqu'un de tout à fait passionnant. D'ailleurs, ça se voit dans l'interview, ça s'entend, je veux dire, dans l'interview. Il est brut, comme on dit maintenant, de décoffrage, enfin, brut, et naturel, avec goût, avec plaisir, avec gourmandise. Et ce texte lui va à merveille. C'était une force de la nature. Ça aussi, sa voix et son articulation. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la voix. Il y a la voix, la couleur. À propos de Delphine, c'est ça. Il y a la couleur et l'articulation. C'est ça qui fait le charme et l'écoute de tout d'un coup, on dit, tiens, c'est un tel. C'est ça aussi. Et ça s'entend énormément dans cet extrait. C'est une nature magnifique. Intelligent, sensuel, généreux, formidable.
Dans cette archive, il parle de la découverte de Crime et Châtiment, de la découverte de Dostoïevski comme un choc. Il parle d'ailleurs de Dostoïevski comme un frère. Ça a dû être très émouvant pour lui de le jouer.
Sans doute, mais il a eu un choc aussi parce que le père Karamazov était joué par... C'était une émission de Marcel Bluval. Par Pierre Brasseur. Il avait un monologue extraordinaire qui durait une demi-heure. Et après, œuvraient les frères Karamazov, Maurice Garrel, Flotats, Fresson, Martouret. Il y avait Balachova dans la
distribution
aussi. La distribution. Et il disait toujours, je ne pourrais pas derrière Pierre Brasseur. J'y arriverai pas. Et c'était une époque où on répétait beaucoup avant de tourner. On répétait comme au théâtre. Et il était là tout le temps, Pierre Brasseur. Et on était très impressionnés. Et au bout d'un quelques temps, on ne disait plus rien. Il disait à Marcel Bluval, tu vois, c'est en regardant les mômes que j'apprends mon métier. Et il est mort un an après. C'était incroyable. C'était quelqu'un de... Une très haute personnalité, mais d'une modestie insensée. Mais c'est une grande famille de comédiens. Ses enfants et petits-enfants continuent la série.
Oui, puisque vous avez été la partenaire de son fils, Claude Brasseur, dans les nouvelles aventures de Vidocq.
Oui, souvent. Et cette date est importante parce que pour lui, le premier jour de tournage, c'était la mort de son père.
Pour en revenir à Bernard Fresson, René le fait débuter au cinéma dans un tout petit rôle dans Hiroshima, mon amour. Et puis Costa Gavras, Sauté, Frankenheimer, Seria, Claude Berry, Polanski, Nicole Garcia. Malgré tout, je crois qu'il n'était pas satisfait de sa carrière cinématographique. Il disait « J'ai fait 60 films, mais je considère que je n'ai jamais fait de cinéma, je sers la soupe ».
Bah, c'est étrange parce que quand même on le remarque beaucoup dans ses... Mais peut-être qu'il
se sentait enfermé dans un type de personnage.
Oui, sans doute. Bah, c'est souvent au cinéma, ça. Mais peut-être que c'était pas suffisant pour lui des rôles qu'on lui proposait. C'est vrai que ce que je dis à propos de la différence avec le théâtre, c'est qu'on est son propre monteur et son propre chef, quoi. On suit quand même le metteur en scène, bien sûr, mais le soir, tous les soirs, c'est nous les responsables. C'est pas pareil. On se sent beaucoup moins responsable au cinéma.
Au cinéma.
Et pourtant, c'est très, très difficile. J'admire, moi, les comédiens de cinéma, parce que c'est un métier horriblement difficile.
Très différent de celui de...
Non, pas très différent, parce que, comme disait Dulin, c'est l'intérieur qui compte, c'est ce qu'on donne. Mais il faut se connaître à un battement de cils près, et ça, c'est difficile, très difficile. Il faut se connaître encore plus, quoi. Je pense que c'est un... Il faut une personnalité charismatique un peu plus importante, sans doute, qu'au théâtre. Peut-être ça la différence, je ne sais pas.
Daniel Lebrun, votre nuit rêvée a commencé avec Dulin et Copeau. Elle se termine avec Laurent Terzieff, au micro de Bernard Bonaldi pour une série d'entretiens en 1997. Laurent Terzieff, Daniel Lebrun, en réalité, vous auriez voulu l'entendre lors de la cérémonie des Molières.
Il a fait un discours absolument magnifique. Il faut absolument que je le retrouve, ça. Ça a été extraordinaire. Tout ce qu'il pensait du théâtre, c'était magnifique. J'ai connu Laurent sur Tango de Mrojec, dans un petit théâtre qui a disparu, qui s'appelait le Théâtre de Lutèce. Et ça a été un très, très grand souvenir. On a eu beaucoup de succès.
Oui, oui.
Beaucoup, beaucoup de succès. Et c'était vraiment une pièce magnifique. C'était la dictature dans une famille. Superbe mise en scène. Il était fantastique. C'est un grand souvenir. il y a longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu, et surtout lui.
Mrojek est d'ailleurs un des auteurs qu'il a le plus monté. Il en a monté d'autres, Le Pic du Bossu, L'Ambassade, À pied.
Oui, c'est un auteur très spécial, très intéressant. Très, très intéressant. Et il m'aimait beaucoup. Il m'a dit, je crois que j'ai écrit Aline pour vous. Alors j'étais très flattée. Et il vivait en Italie, et en Pologne aussi, et en France. C'est un grand auteur.
Il était ami avec Laurent Terzieff.
Oui, bien sûr, il venait souvent nous voir. Dans ce petit théâtre.
Et Terzieff était profondément attaché au théâtre contemporain.
Oui, il a toujours... La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur des poèmes, un florilège. J'étais en larmes. Il était vraiment... Il avait choisi des poèmes allemands, du Heine, qui lui allaient très très bien. Je sais pas, c'est une soirée où il était d'une maigreur effrayante, mais... Il trimbalait quelque chose de... il avait l'air d'un mort, et c'était pourtant, lui, quand on l'écoutait, c'était la vie. Moi, je pleurais. J'étais vraiment très, très émue. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de peine quand il est mort.
Dans cette archive, il parle de Claudel comme un déclic. Il dit que le texte est devenu physique. Il dit « J'ai fleuri, je suis vraiment devenu un comédien ». D'ailleurs, l'émission se termine par une très belle lecture du début de Tête d'or.
Tête d'or, c'est une pièce, à mon avis, qui est très ennuyeuse. Mais Claudel, c'est pas ma tasse de thé. Cela dit, j'en ai jamais joué. Ça dépend aussi beaucoup du metteur en scène. Mais quand je les ai vus, Cuny et lui, qui étaient deux monstres extraordinaires, qui avaient une poésie et qui la donnaient au public, c'était quand ils marchaient, on aurait dit qu'ils se déracinaient. Alain Cuny. C'était un arbre qui se déracinait. Ils avaient, dans la tête, ils avaient 2 mètres. C'était comme Maria Cazares aussi. Là aussi, une voix magnifique. C'était des gens qui donnaient au public ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, par leur voix, par leur physique. Et c'est vrai que sans doute, là, il a beaucoup appris, Laurent, dans ce rôle. Il a pris conscience peut-être de son physique.
C'était quelqu'un de très solitaire, et d'ailleurs il parlait du théâtre comme un remède contre la solitude des comédiens.
Il avait une bande quand même, avec qui il travaillait beaucoup. Mais c'est vrai que, vous voyez, la dernière soirée, c'était quand même, ce qu'il a fait, c'était tout seul en scène.
Il parle aussi de la violence de la solitude après la représentation, et après ce temps de communion et de partage. La salle vide.
J'ai pas eu ce sentiment-là sur Tango, en tout cas. Mais j'aime pas m'attarder beaucoup après, moi. Je veux pas que la servante arrive sur scène. Je la laisse au théâtre. C'est toujours très émouvant, un théâtre, dans la nuit. Ou alors, faut vraiment en faire partie, être le patron, comme on disait de Jouvet. Peut-être. Il y avait à la Comédie des Champs-Élysées ce fameux ascenseur du fond où les 6 personnages en quête d'auteur sont arrivés. Je crois qu'il existe toujours cet ascenseur, parce que maintenant il est culte, n'est-ce pas? Et ça, dans Pirandello, c'est vraiment très net, ce sentiment de le théâtre dans le théâtre. C'est toujours très intéressant, mais c'est vrai que c'est angoissant. Moi, j'aime pas m'attarder après.
Terzieff avait parfois remplacé Tania Balachova et disait être très mal à l'aise dans le rôle de professeur parce que les jeunes étaient en attente d'une méthode et que lui n'en avait pas. Il disait « chaque texte secrète sa propre méthode ».
Ça, je suis bien d'accord avec lui. Je n'ai pas la patience d'être professeur.
Oui, vous non plus, ça ne vous tente pas du tout.
J'admire des gens comme Bouquet, mais un vrai professeur apporte sa culture. Les gens qu'il aime, les peintres qu'il aime. Moi, j'ai eu Henri Roland au conservatoire, pas longtemps, hélas. Mais c'était fascinant. Ça vous marque quelqu'un. François Perrier me parlait de André Bruno, il me parlait de Georges Leroy. Je crois que c'était des gens qui transmettaient leur culture. Mais de là à apprendre, comme Dulin, comment faire, je pense qu'on est quand même un peu tous tombés dedans quand on était petits. L'apport, après, c'est de regarder les gens qu'on admire, c'est d'apprendre par eux, comme ça, c'est l'expérience. Mais de là à transmettre sa propre expérience, c'est très très difficile. Ou alors il faut une patience d'ange que je n'ai pas.
Il disait qu'il préférait décourager les jeunes qui venaient lui demander conseil, que s'ils tenaient bon, ça voulait dire, c'était la preuve qu'ils étaient faits pour ça. Quel conseil donneriez-vous ?
Je ne pense pas qu'il faille décourager personne. Ça, c'est très personnel. Hein. C'est chacun pour soi. Je pense que là-dessus, Francis Huster, qui n'est pas dupe, il a raison. Au cours Florent, il me disait, il y a peut-être 2% de gens qui vont percer dans ce métier, sur toute la centaine, mais les autres en partiront avec une pêche, un dynamisme. Au moins, ils n'auront pas perdu leur temps. Et je crois qu'il a raison. Et peut-être, il faudrait faire un petit peu plus de théâtre à l'école, sans professeur. C'est-à-dire le faire soi-même entre acteurs. Parce que les professeurs ont tendance à vous donner des tics. Les professeurs qui ne sont pas des professeurs de théâtre, hein, des professeurs de littérature et tout. Par contre, leur donner du goût au texte, c'est à eux justement de le faire. Quand on a la chance à l'école d'avoir un prof qui vous parle de Dostoïevski ou de Molière comme s'il l'avait connu, c'est extraordinaire. On n'a qu'une seule envie, c'est d'acheter le livre. C'est ça qui est un vrai prof en fait, c'est de vous donner le goût. Mais le goût, si on ne l'a pas au départ, quand on voit quelqu'un, on va voir quelqu'un comme Terzi en disant « je voudrais des conseils », il a raison. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui dise ? On a chacun son parcours. Et l'expérience, évidemment, c'est quand même très important.
Eh bien, nous quittons sur ces mots et nous nous retrouverons dans quelques heures, un peu avant la fin de votre nuit rêvée, Daniel Lebrun. Et d'ici là, nous aurons écouté Raymond Queneau dans le deuxième épisode des Chansons d'écrivains de Jean Chouquet en 1953. Photogramme 3, Louis Aragon, passage du surréalisme pour l'usage de la parole de Hubert Juin en 1962. Sexus, quatrième partie, par Bernard Fresson pour Pages arrachées au roman de Henri Miller en 1991. Et pour finir, Laurent Terzieff par Bernard Bonaldi dans le quatrième volet d'Avoix nues en 1997. Daniel Lebrun, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.